Un bon filon.
Un bon filon à suivre, mais on a parlé de désastre. Je ne saurais pas dire autrement.
Hélène Faradji.
Vous êtes vraiment dans le micro-format là, cette semaine.
Oui, en effet. Avec c'est une web-série documentaire, si on veut dire, mais les épisodes sont extrêmement courts parce que c'est une web-série qui a la particularité d'être diffusée uniquement sur Twitter et Instagram.
Ah.
Donc, les formats de ces médiums sociaux-là imposent des épisodes de 2 minutes 20 maximum. Voilà pourquoi c'est des très très courts épisodes. Et je dois dire que c'est peut-être une des web-séries documentaires les plus originales que moi j'ai vues et dont j'ai pu parler depuis que je tiens cette chronique-là. D'abord pour ce format très particulier, ce mode de diffusion. C'est assez rare qu'on regarde une série sur Twitter, mais ça fonctionne comme ça. C'est signé Olivier Pillot, Fabrice Schéma et Laura Millienne. Et ça s'appelle donc « Pourquoi on écoute Booba ?» Booba étant un rappeur français et extrêmement populaire. On parle de 9 albums depuis 2002, plus d'un million d'albums vendus. Il avait fait ses débuts dans le groupe Lunatic. Il est dans le paysage musical français depuis plus de 20 ans, ce qui est quand même assez rare dans le rap. C'est une carrière assez longue, mais c'est quelqu'un qui fait un peu peur, qui a une stature assez massive, des textes très rentre-dedans, une musique plutôt agressive.
Mais est-ce qu'il y a un petit côté gangster ou misogyne qui se mêle à ça?
Forcément, pour le spectacle, etc. Il a son public, c'est évident, mais beaucoup de gens n'entendent que ça de lui, c'est-à-dire cette violence, cette vulgarité, ce côté très, très rentre-dedans, très agressif, alors que c'est autre chose aussi. Et c'est ce que cette série-là veut nous expliquer.
Okay.
C'est qu'en fait, la web-série en question, plutôt que de perpétuer les mille et un clichés qu'on connaît sur le rap, le hip-hop, va plutôt essayer de nous faire comprendre pourquoi c'est de l'art. Pourquoi, au même titre que n'importe quel autre auteur de chansons, un rappeur écrit d'abord et avant tout de l'art. C'est ce qui est quand même un peu troublant quand on regarde cette série. On est en 2018. Moi, je me rappelle que ces questionnements-là qui étaient exactement les mêmes quand NTM sortait son premier album en 1991. On se disait, c'est que du bruit, il n'y a rien là-dedans, c'est pas de l'art, justement. C'est vraiment les mêmes questions qu'on se pose. Donc, on se dit, oui, le rap, ça a pris sa place, etc. Mais on se rend compte que ça n'a pas tant évolué que ça.
27 ans plus tard.
On se pose encore les mêmes questions. On a divisé ça en épisodes thématiques. Alors, pour l'instant, il n'y en a que 7, il va y en avoir d'autres. On a Catharsis, À l'ancienne, Le message, L'école, Période, Métagore et Sensation vont venir le flow, l'autotune, parce qu'il utilise beaucoup, beaucoup l'autotune dans ses chansons. Et celui que j'attends de pied ferme, c'est Le rapport aux femmes, qui risque d'être assez intéressant. Mise en scène extrêmement simple, vraiment des têtes parlantes, avec une direction photo très douce, très ouatée.
Mais parlons d'une chose, vous parlez de l'image, direction photo, mise en scène simple. Si on est diffusé essentiellement par Twitter puis par Instagram, ça veut dire qu'on a prévu le coup et qu'on sait qu'on va être visionné essentiellement dans une main, là, sur un écran de téléphone intelligent.
Donc, pas de profondeur de champ, c'est plus des effets de montage, de l'infographie, beaucoup, pour rendre ça très dynamique. En 2 minutes 20, en plus, il faut qu'on soit concis et efficace. On n'a pas le temps vraiment de faire de la grosse mise en scène, mais ça reste quand même bien fait. C'est efficace, c'est dynamique. Et qui vient nous parler de tout ça? Ce sont d'abord des romanciers. Clément Bénec, Marie Debré ou Thomas Ravier. Un linguiste qui s'appelle Julien Barré, un prof de sciences en gestion qui s'appelle Jean-Philippe Denis et qui vient nous expliquer qu'avec son BEP, qui est un diplôme assez
de base.
En vente, et Booba est un bien meilleur exemple pour la jeunesse notamment que les patrons formés dans les grandes écoles qui peuvent avoir des parcours pas très inspirant, disons, pour des jeunes qui n'ont pas nécessairement accès à ces écoles-là. Et que donc, c'est un exemple de réussite sociale assez intéressant.
Très valable.
Et puis, évidemment, des journalistes musicaux, parce que bon, c'est quand même leur champ d'expertise. On a Olivier Cachin, grand spécialiste du rap en France, et David Doucet, qui est le rédacteur en chef des Inrocuptibles. Et tous ces gens-là, selon les thèmes, vont donc décrypter, expliquer, analyser les textes et la présence sur scène de Booba, et vont surtout expliquer pourquoi c'est un auteur.
Ce qui est intéressant chez Rimbaud, c'est que, en fait, je crois qu'il lisait assez peu de littérature, et il aimait surtout les livres techniques, les livres sur sur les bateaux, sur l'industrie. et que sa source principale, sa matière première, c'était ça, c'était pas la littérature. Chez Booba aussi, il y a une espèce d'inspiration qui vient du premier degré du monde, enfin, du réel tel qu'il est. En plein blizzard avec mon BEP vente, je suis condamné au mic à la vente de substances bizarres. Manque de peau, j'ai pris la vie.
Ah, c'est drôle cette analogie avec Rimbaud. Moi, je savais pas que Rimbaud était un lecteur de manuels techniques.
Moi non plus. J'ai appris ça, mais il va aussi être comparé à Baudelaire, Booba, parce que noirceur des textes, parce que une certaine conscience de la dureté du monde, un petit accent peut-être un petit peu plus dépressif, un pouvoir cathartique énorme dans ses chansons. On va beaucoup nous parler de la charge poétique aussi de ses messages, de son énergie et surtout de sa capacité assez étonnante à se réinventer constamment.
Est-ce que l'histoire dit qu'est-ce que Booba lui-même pense de devenir un objet de documentaire aussi sérieux?
Il n'a pas commenté? Non, pas pour l'instant.
Est-ce que lui-même est interviewé?
Non, pas du tout.
Ah, c'est spécial.
C'est vraiment juste des spécialistes de différents domaines qui vont donner leur avis. Alors peut-être que dans les épisodes qui vont suivre, il va apparaître à un moment donné.
Je serais très curieuse de voir comment le milieu prend ça.
Tout à fait, ça devient un objet culturel entière.
Est-ce qu'ils apprécient ou pas?
Probablement, j'imagine quand même. C'est agréable qu'on parle de... Bon, c'est assez positif quand même ce qu'on explique sur lui.
Non, je devine, mais quand même, là, c'est, vous comprenez ce que je disais?
Oui.
Culture qui est tout d'un coup officialisée ou récupérée par les intellectuels.
Exactement, ça n'a pas l'air d'appartenir à l'univers du rap, mais pourtant, c'est aussi ce qui fait que ça légitime d'une certaine façon, que ça en fait un objet culturel...
Ouais. À part entière.
À part entière, exactement. Dans un monde comme ça, où les codes changent constamment au niveau de la musicalité du rap, ben Booba, lui, s'est réinventé constamment. À un moment donné, on va le comparer à Highlander, parce qu'il traverse toutes les générations, lui aussi. Moi, c'est vraiment une série que j'ai trouvée punchée, courte, dynamique, intéressante. Qu'on connaisse Booba ou pas, peu importe, c'est intéressant de voir des spécialistes nous expliquer pourquoi cette façon de s'exprimer artistique, non seulement est valable, mais en plus a une vraie importance culturelle. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Si vous avez...
Et si on n'est pas abonné à Twitter, est-ce qu'il y a un moyen de la trouver?
Sur Instagram.
Ou si on n'est pas abonné à aucun...
Branchez-vous.
Branchez-vous, ok.
Excusez-moi, mais branchez-vous.
Non, mais c'est ça. On ne peut pas la trouver par un site internet. C'est les seuls moyens. Il faut s'abonner.
Il doit y avoir, j'imagine, un site associé à ça spécifiquement. Ouais, mais c'est vraiment sur internet. Sur ces plateformes-là qu'on peut la trouver.
On va mettre les liens nécessaires. Pascal.
Oui.